Session de théologie sur l'Église de la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, deuxième conférence du 28. Session de théologie sur l'Église de la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, deuxième conférence du 25 août 95.
Je réponds aux quelques questions. Si la femme enveloppée de soleil, du chapitre 12, est bien Marie, pourquoi est-il dit qu'elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement? La tradition n'enseigne-t-elle pas que la Vierge Marie n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, puisqu'elles sont les conséquences du péché originel dont elle a été privée, préservée. Ce que je vous ai dit, la vision de l'Apocalypse est une vision d'éternité. Dans la vision d'éternité, les deux maternités sont liées. Et c'est très net dans ce passage. La maternité de Marie à l'égard de chacun d'entre nous et de l'Église est une maternité qui implique toutes les douleurs de la croix. La maternité de Marie auprès de Jésus est une maternité dans la joie. Qui n'a pas qu'une douleur. Alors, on n'avait pas le temps, j'étais très vite parce que c'est plus facile à comprendre ce passage du chapitre 12. Mais c'est très intéressant. Lisez-le, relisez-le. De voir l'enchevêtrement constant des deux maternités. Je trouve ça moins admirable au point de vue théologique. C'est merveilleux. De voir combien la maternité de Marie auprès de l'Église, auprès de nous, est liée à la maternité auprès de Jésus. La tête et les membres dans le cœur de la même mère, dans la foi de la même mère, dans l'espérance de la même mère, dans la charité. Et c'est là où on voit combien ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui pour Marie, c'est fort. Sa maternité à l'égard de Jésus, c'est une maternité à l'égard de Dieu. Sa maternité à l'égard de nous, c'est la charité fraternelle. Et dans cette vision de l'Apocalypse, les deux sont intimement liés. Mais c'est que nous avons beaucoup de peine d'entrer dans le regard de foi, qui est un regard d'éternité. Nous restons toujours un tout petit peu dépendants de nos schèmes historiques successifs, du temps, selon notre mode humain. C'est évident, selon notre mode humain, la maternité de Marie auprès de Jésus et la maternité de Marie auprès de nous, c'est pas tout à fait en même temps. Alors on ne comprend pas. Alors que si vous êtes dans le regard d'éternité, le Père regarde Marie comme la mère de son fils et la mère du corps mystique. Donc vous voyez, c'est comme cela qu'il faut essayer de comprendre ce passage si grand. Parce que c'est grand de regarder ces deux maternités dans un regard de sagesse. Alors on peut préciser au point de vue théologique, ont précisé. La maternité à l'égard de Jésus, c'est donc la contemplation. Et la contemplation est première. une conséquence, du moins une conséquence, voyez, est un fruit, disons, c'est plus juste, un fruit de sa maternité à l'égard de Jésus. Vous avez prononcé une appréciation négative sur la dialectique. Oui, et je continue de le dire. Du moins la dialectique hegelienne. La grande dialectique d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une dialectique chez Aristote. C'est au niveau des opinions. Tandis que pour Hegel, ce n'est plus au niveau des opinions. C'est la philosophie elle-même qui est dialectique. C'est la vérité. La vérité est dialectique pour Aristote, pour Hegel. Alors, est-ce une condamnation absolue de la dialectique? Bon, il y a beaucoup de sortes de dialectiques. La dialectique ne peut-elle pas contribuer à la recherche de la vérité? Oui, au niveau des opinions. Ou bien une condamnation relative de la dialectique diabolique qui tend à nous faire prendre des vessies pour les lanternes, pire que des vessies. Je veux bien. C'est beaucoup plus que ça. La dialectique est devenue la manière de penser de tous les gens d'aujourd'hui. Extraordinaire. Je crois, alors je ne peux pas faire un cours de philosophie, mais je veux bien. Je suis habitué, mais je ne veux pas trop entrer dedans. Au terme de la philosophie, on s'aperçoit qu'il y a deux manières de penser, une manière dialectique et une manière analogique. C'est très curieux et c'est quand même très intéressant. Il y a tout le platonisme qui pense dialectiquement, le néoplatonisme qui pense dialectiquement, l'hégélianisme et tous les néo-hégéliens. Alors, au point de vue quantité, si on fait une élection, c'est de beaucoup là où il y en a plus. La pensée analogique, c'est Aristote. C'est l'aspect qualitatif et l'autre c'est l'aspect quantitatif. Alors, vous allez comprendre, j'espère, qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces deux manières de penser, la division. L'intelligence aime de diviser. Elle divise. Et la division première, c'est affirmation et négation. C'est ça qui est fondamental dans la vie d'intelligence. Alors, quand on divise, il y a nécessairement quelque chose de premier, divisible, et puis les deux parties. Donc ils sont trois. Pensée dialectique étroite. C'est curieux. Alors on dit bêtement, vous voyez, thèse, antithèse, synthèse. C'est tout le monde, quand on pense de dialectique, on va se voir comme ça. Mais ça ne fait rien comprendre du tout. Parce que c'est le tout. Un tout divisible qu'on divise et qu'on sépare et qu'on rassemble ensuite. Tu vois ? C'est pour ça que c'est une pensée symbolique. Alors la division est dedans, l'affirmation et la négation. Alors, voyez, ça reste sur le même plan, univoque. Tandis que lorsqu'il s'agit de la pensée, affirmation, négation, dans la pensée analogique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la saisie de quelque chose de commun. ce qu'Aristote appelle le ti koinon, le quelque chose comme. Et les deux modalités diverses. Les deux modalités diverses. Les pensées analogiques, vous allez comprendre, du moins, j'espère. La pensée analogique vis-à-vis de l'intelligence. L'homme est intelligent. Dieu est intelligent. Parler de l'intelligence de Dieu ou pas de l'intelligence de l'homme. Mais il y a quelque chose de commun dans l'intelligence de Dieu et l'intelligence de l'homme. Ce qu'on appellera la ratio intellectus chez saint Thomas. De modalité homme-Dieu. De modalité totalement différente. Et ça permet de voir qu'entre ces deux modalités différentes, il y a quelque chose de commun qui permet d'attribuer l'intelligence à l'homme et à Dieu. L'homme est intelligent, Dieu est intelligent. Les anges sont intelligents, l'homme est intelligent. Alors c'est ici ce qu'il y a de commun et qui permet donc l'attribution pour les deux. Qui, vous voyez, ça ne les unit pas. C'est saisir quelque chose de radical dans ces deux modalités d'intelligence. Alors, à ce moment-là, vous voyez, l'affirmation est première et la négation vient renforcer l'affirmation. L'affirmation est première parce que j'expérimente ma modalité d'être intelligent. Tandis que je n'ai pas l'expérience de la manière dont Dieu est intelligent. Mais j'expérimente cette modalité. Donc j'affirme. Qu'est-ce que c'est que d'être intelligent ? Si on élevait le temps, voyez, je vous dirais, c'est un petit jeu très intéressant. Mais prenez un petit bout de papier. Et puis réfléchissez 2 minutes. Et mettez-moi en 2 mots ce que c'est que d'être intelligent. Alors l'un dirait, je suis intelligent. L'autre dirait, l'intelligence, c'est discerner la vérité. Être intelligent, c'est séparer le nécessaire du contingent. L'intelligent, c'est rejeter tout ce qui n'est pas vrai. Et ainsi de suite. Vous pouvez donner des tas de définitions. Et c'est intéressant d'enseigner comme ça. Qu'on voit tout ce qui se rattache. Bon, mais c'est très long aussi, ça met du temps. Je vois ce que c'est d'être intelligent et en même temps, je vois les limites de mon intelligence. Et je nie ces limites, négation. Pour m'élever jusqu'à l'intelligence qui n'a pas de limite. Oui, affirmation, négation, affirmation. C'est ça qui est constant dans la manière analogique. Tandis qu'au contraire, alors c'est là où c'est beaucoup plus, c'est pas subtil, mais dans la manière dialectique de penser, la négation est première. Et on essaie, à partir de la négation, donc du rejet, on essaie de découvrir, à partir de la négation, quelque chose qui implique une détermination. L'affirmation naît à partir de la négation. Oui. C'est assez curieux, du reste. Donc la négation première, et je crois, moi je suis arrivé à ce point de vue-là, au point de vue philosophique, je n'ose pas dire que c'est absolument vrai, mais je crois que ce qu'on appelle la modernité, au point de vue intellectuel, C'est le primat de la négation sur l'affirmation. Et c'est très ancien, puisque Platon implique une dialectique, mais la dialectique de Platon n'est pas du tout celle de Hegel. C'est tout à fait différent. La dialectique de Hegel est née du primat de la négation. Et le primat de la négation est né chez les théologiens à partir du XIVe siècle. Octam. C'est très curieux. Avant, presque tous les philosophes reconnaissent que l'affirmation est première. Parce que la négation présuppose l'affirmation. Chez tous les Grecs, c'est comme ça. Il y a un moment dans la pensée où la négation a été première. Et je crois que c'est ça le signe de la modernité. C'est-à-dire le signe d'une intelligence qui va se développer d'une façon tout à fait différente que l'intelligence analogique. Et alors, la négation est en première. Je cherche dans la négation la détermination. Je nie l'existence, puisque c'est l'existence qu'on nie la première. Et on retient l'idée. On retient la détermination. C'est à partir de la négation que va naître l'idée. Quelque chose qui reste, quelque chose qui demeure. La mise entre parenthèses de l'exister pour découvrir l'acuité, la détermination. La détermination fondamentale. Vous voyez ? C'est intéressant qu'on trouve quelque chose d'analogue à la pensée analogique. On découvre la raison en niant les deux modes. Mais on ne commence pas par nier les deux modes. On a d'abord l'expérience de ces deux modes. Et on essaie de voir les limites. Et qu'est-ce qu'ils font de la négation ? C'est en voyant les limites. Parce que les limites ne sont pas ce qu'est la chose. Tandis qu'au contraire, de l'autre côté, il y a d'abord la négation, puis de là naît l'idée. Et les idées à l'intérieur de la négation apparaissent donc comme un tout possible. Un tout possible, puisque j'ai nié l'exister, et ceci peut exister. Et à partir de là, on va diviser le possible. De sorte que c'est un développement qui va se faire à partir non plus du tout de l'exister, mais à partir de l'idée. La dialectique naît à partir des idées. Et ça, c'est plus facile à comprendre. Vous voyez ? C'est le mouvement interne de l'intelligence. Alors, pourquoi qu'on dira que la dialectique est au-dessus du principe de non-contradiction? C'est parce que mon intelligence affirme et nie. Si c'est mon intelligence qui affirme et qui nie, mon intelligence est donc au-dessus de la négation et l'affirmation. Et donc, si je mets l'intelligence avant l'affirmation, j'ai nié, j'ai supprimé le contact avec le réel, avec l'exister, avec le jugement d'existence. À partir de là, l'idée apparaît. Et l'idée, c'est le fruit d'intelligence. Donc, elle est au-dessus de l'affirmation et de la négation. Et alors, il y a le développement de la dialectique qui se fait toujours dans ce jeu particulier de la négation et de la détermination. Alors, vous voyez, c'est comme ça que je dis que il est bien évident que la dialectique de Platon n'est pas démoniaque. C'est une dialectique qui se fait au niveau des formes. Oui, au niveau des formes, donc au niveau des idées. Même chez Platon, c'est au niveau des idées. La dialectique d'Aristote est au niveau des opinions. C'est une dialectique qui est très bonne. Vous voyez, c'est que quand on cherche chose. J'essaie de comprendre ce que c'est que la liberté. Je vais regarder dans les différents auteurs, philosophes, qu'est-ce qu'ils disent de la liberté. Je vois des opinions très diverses. J'unis ces opinions dialectiquement. Ou je les oppose dialectiquement. Donc la dialectique est là pour nouer le problème, pour Aristote. Et cette dialectique-là n'est pas mauvaise. Chez Hegel, la dialectique devient le grand procédé de l'intelligence. On commence par l'idée, comme Platon. Mais on a d'abord nié et rejeté tout contact avec le réel pour se libérer de cela. Et c'est à l'intérieur même de la vie de l'intelligence qui pense qu'on va essayer de découvrir cette démarche de l'intelligence qui va affirmer au-delà de la négation et qui va essayer ensuite d'analyser ou de diviser ce qui est affirmé pour voir les oppositions et refaire le tout. C'est pour ça que c'est une philosophie du tout. Et donc c'est une philosophie beaucoup plus de la quantité que de la qualité. Je vous dis ça, venez, ça demanderait beaucoup, beaucoup plus d'explications pour comprendre. Retenez une chose, peut-être, qui est importante, c'est qu'il y a bien deux procédés de connaissance intellectuelle. Le procédé de l'analogie et le procédé de la dialectique. Tous les deux reposent sur la division, mais il y a un ordre différent entre affirmation et négation. En gros, je crois que c'est ça qui nous permet de comprendre la dialectique et qui nous permet de voir comment la dialectique naît dans des climats idéalistes où l'intelligence et l'idée est affirmée comme première, tandis que l'analogie naît dans un climat réaliste. La mise entre parenthèses de l'exister, c'est au fond la négation d'exister. Et cette négation d'exister donne à l'intelligence sa liberté entière de se développer comme elle veut. C'est dans ce sens-là que je dis la dialectique, surtout la dialectique hegélienne, elle est dangereuse, puisque on ne part pas du réel, on part de l'idée qu'on a. On a rejeté le réel pour être libre. Ce qui sous-entend, me semble-t-il, ces réflexions sur l'Apocalypse et le péché originel. À quand une session sur le thème? Oui, ça, je n'entre pas dans le péché originel maintenant. On l'a vu suffisamment. Mais c'est très vrai. C'est parce que le réalisme profond de l'homme... Premier, nous sommes des pécheurs. Mais, attention, la vision, c'est pas de partir du péché, c'est de partir du cheval blanc. Et donc je pars de la victoire. C'est en ce sens-là que l'Apocalypse est une vision d'espérance et pas de désespoir. Parce qu'on voit la grandeur de l'espérance. Alors, il y a une autre question. Apocalypse 17:8. Les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie. S'émerveille au spectacle de la bête, etc. Oui. D'autre part, au chapitre 15:5 et suivant, ce ne sont plus les anges, ce ne sont plus les anges du démon qui agissent, comme ceux enchaînés sur le fleuve l'Euphrate, mais ceux de Dieu. Au ciel s'ouvrit le temple, d'où survient, d'où sortirent les sept anges aux sept fléaux. Et le premier ange s'en alla répandre, etc. Oui, voyez, oui, c'est très vrai, et c'est ça la difficulté du reste, comme interprétation. C'est que de temps en temps, les anges sont des envoyés de Dieu, mais ils sont envoyés de Dieu pour sonner de la trompette. Il y eut. Vous voyez ? Alors, si on met un lien entre sonner de la trompette et le résultat, on dit les mots sont envoyés par Dieu. C'est pour ça que je vais souligner que les trompettes sont seulement ceux qui exécutent, c'est-à-dire ceux qui annoncent que Dieu donne cette liberté. Volonté de permission. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit des anges, qui alors a annoncé fléau, donc 15, c'est tout à fait différent. C'est Dieu qui taille sa vigne. Quand Dieu taille sa vigne, il ne le fait pas par le démon. Hein ? C'est pas si commode que ça de discerner les deux. Quand Dieu taille sa vigne, c'est Dieu directement. Alors, il se sert de l'ange, il se sert de Marie, il se sert de... Tandis que les trompettes, ce n'est pas directement Dieu qui taille sa vigne. C'est Dieu qui annonce les permissions des mauvais anges. Alors, comprenez, chapitre 17-8, les habitants de la terre dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie. C'est évident que ces affirmations-là, vous voyez, peuvent donner lieu à des interprétations qui seraient fausses du fatalisme. Mon nom est écrit dans le livre de vie par le fait même que je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Pauvre type à côté, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors, fatalement, il est rejeté. Il peut faire n'importe quoi, tous les efforts possibles. Vivre comme un saint, son nom n'est pas vrai. C'est ça qui est terrible dans le langage humain. Il faut le comprendre dans l'ensemble. Qu'est-ce que représentent les noms écrits dans le livre de vie ? Ce sont ces les volontés du Père, qui sont de toute éternité. Dieu de toute éternité a décidé qu'un jour, son Fils s'incarnerait pour nous sauver. Alors les théologiens, il faut bien, les théologiens, dans l'éternité, essaient de mettre un ordre. Alors qu'il n'y a pas d'or dans l'éternité. On est au-dessus. L'ordre existe lorsque vous êtes en face de deux contraires. Ou lorsque vous êtes en face de quelque chose qui est antérieur et postérieur. Alors il y a un ordre. Pouvez-vous découvrir un ordre dans l'éternité ? Alors les théologiens parlent de moments dans l'éternité. Mais ils savent très bien que c'est une construction de l'esprit, que c'est pas vrai. Faut bien parler. Dans l'éternité, il y a le silence. Les théologiens ont besoin de parler. Alors ça, il faut comprendre que ça, c'est dans le temps. Il faut comprendre que si je dois essayer d'exprimer les volontés de Dieu. Je vous donne tout le petit exemple. Vous allez saisir, j'espère, comme ça. Dieu décide, première volonté de Dieu, décide la création. Et dans la création, il décide qu'au terme de la création, il y aura la femme. bien ce que je vois dans la Genèse. Les deux récits ne sont pas contradictoires. Mais il y a un récit premier qui montre que Dieu regarde l'homme et la femme. Et le second récit, que Dieu crée d'abord l'homme, comme s'il avait oublié la femme. Pour créer dans le cœur de l'homme un manque. Dieu psychanalyste, il crée dans le cœur de l'homme un manque. Et l'homme s'ennuie. Vous comprenez ? Vous donnez des conseils à toutes celles qui veulent se marier. Mariez-vous toujours avec quelqu'un qui a compris un manque dans sa vie. Qu'il était seul, malheureux seul. S'il n'a pas compris ça, il ne saura pas vous supporter. Mais s'il a compris qu'il était seul, alors à ce moment-là, vous serez reçu avec joie. Parce qu'il sera plus seul. C'est curieux, mais c'est quand même, vous savez. Le second récit de la Genèse est très curieux. Laissez l'homme en quarantaine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. C'est le premier récit de la Genèse qui nous montre la pensée de Dieu, créer l'homme et la femme. Je ne crois pas du tout qu'il a créé comme ça. Vous voyez, ce serait merveilleux pour la théorie de l'évolution. Il y a eu d'abord l'homme. C'était ça. Puis il a attendu très longtemps qu'il y ait une autre évolution, la femme qui apparaisse. Vous voyez. Alors ça a garanti l'évolution, ça. Mais pas ça du tout, c'est pas du tout l'intention de Dieu. C'est de nous faire comprendre qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Ça va très loin, ça. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Vous voyez ? Et donc Dieu crée un manque dans le cœur de l'homme. Premier moment, qu'est-ce qu'il y a ? Second moment, il y a le péché. Qui n'était pas prévu. L'homme est libre. Ève a péché. Or, troisième moment, qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va punir. Mais il va punir en père. C'est les frères aînés qui ont tenté les petits derniers et la petite dernière. C'est le démon habillé en serpent, sous le symbolisme du serpent qui a trompé Ève. Ève n'est pas très coupable, parce que le serpent était bien plus intelligent qu'elle. Et ça l'intéressait. J'ai dû rencontrer dans ma vie des étudiantes de philosophie qui me disait, des cours de philosophie, c'est très bien, mais on m'a invité de pouvoir interroger le démon. Ça doit être un philosophe hors ligne. Est-ce que vous me permettez d'interroger le démon et de suivre un cours de philosophie fait par le démon ? Il y a une haute université en enfer. Alors, est-ce que j'ai le droit de me mettre à l'école ? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est gratuit. Pas d'examen, on est tous reçus. Mais, alors, troisième moment, Dieu va penser comment rattraper cette brisure à l'égard de ce qu'il aimait tant. Tout l'amour de Dieu pour Ève. C'est terrible pour Dieu. Qu'Ève soit ingrate. Oui, extérieurement, ça donne raison au démon. Surtout, ne créez pas. C'est le petit dernier. Pas très intelligent. Ne créez pas ça. Ils vont vous jouer des tours. Dieu va, lui, essayer de réparer la faute. C'est ça qui est extraordinaire. Il aime tellement Ève qu'il va prendre la place d'Ève. Et mieux, il va porter le péché d'Ève. Comment le Père peut-il porter le péché d'Ève pour qu'à la fois la justice soit respectée et qu'en même temps l'amour aille plus loin? Alors ça, c'est le troisième moment. Cette réflexion de Dieu pour penser au mystère du Sauveur. Et pour que le Sauveur soit un vrai Sauveur, il faut l'incarnation. Donc, vous voyez, on fait des moments successifs. Mais ces moments successifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas réel. Il n'y a pas de moments successifs dans l'éternité. Mais c'est pour que je puisse arriver à mieux comprendre la miséricorde de Dieu. Parce que tout cela, ces moments successifs, c'est contenu dans l'instant éternel de Dieu. L'instant éternel. L'éternité n'est pas divisible. Donc il n'y a pas d'ordre. Il y a bien plus que l'ordre, il y a l'unité absolue. Mais je réfléchis, c'est différents temps, voyez. Alors c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il y a la pensée de Dieu qui de toute éternité, le Père, puisque le Père est premier, de toute éternité, veut regarder l'homme et le sauver. Et ce regard de Dieu sur toute l'éternité passe de fait, puisque le péché a eu lieu, passe de fait à travers le cœur blessé d'agneau. Oui, c'est cette même volonté qui va, déviation. Puisqu'il y a eu un accident, donc il faut une déviation. Et cette déviation, comme ça, ça passe par le cœur. Et le Sauveur nous sauve par sa miséricorde, mais il veut que nous soyons libres. Le péché n'a pas supprimé la liberté de l'homme. Il était un acte libre, mauvais. Et l'homme peut continuer de pécher. L'homme peut recevoir la miséricorde. Et pour que l'homme puisse être sauvé, il faut qu'il réponde à cette miséricorde de Dieu et qu'il la demande. Oui. Et donc, à ce moment-là, je dirais, si l'homme répond à cette miséricorde de Dieu, il est inscrit dans le livre de vie. S'il ne répond pas, il n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais ça, c'est de toute éternité, c'est comme ça. Parce que de toute éternité, tu as pensé sauver l'homme. Il a voulu sauver l'homme. De sorte que le livre de vie représente des différents moments. Il est dans l'éternité. C'est la volonté expresse du Père. Oui, ça confirme ce qu'on avait vu à propos de l'ouverture des sceaux. C'est quelque chose de secret. Mais le théologien a toujours envie de comprendre. Alors, il projette sur Dieu un certain ordre des moments. Il a raison de faire pour mieux comprendre les différents aspects de la liberté de Dieu. Mais les aspects de la liberté de Dieu, Dieu dans son acte de sauveur, c'est un acte unique éternel. Répondre à ça, celui qui a écrit ça pourra venir me trouver. l'adoration et la contemplation. Voyez, l'Apocalypse ne cesse de parler d'adoration. Pour moi, personnellement, l'adoration, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie chrétienne. Mais il est vrai, quand je regarde un peu l'histoire de l'Église, qu'à partir du XVIIe siècle, la méditation a remplacé l'oraison, l'adoration. C'est très curieux. On n'a plus parlé que de louanges, que d'actions de grâce, mais l'adoration. C'est très curieux, ça. Alors là, vous voyez, sûrement que les charismatiques, les charismatiques ont commencé par des chants d'action de grâce, de louanges, parce que les églises étaient trop tristes. Et progressivement, ils ont redécouvert l'adoration. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est très beau. Et c'est très grand. Et redécouvrant l'adoration, ils tendent vers la contemplation. D'où le silence. L'adoration est silencieuse et la contemplation est silencieuse. Alors que la louange et l'action de grâce peuvent être chantées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration est l'acte fondamental d'une créature raisonnable qui reconnaît que son âme spirituelle est créée directement par Dieu. L'adoration donc repose sur les traditions religieuses qui montrent et qui rappellent le problème de la création. Ça suffit, puisque c'est dans l'ordre pratique. La tradition judéo-chrétienne ne cesse de me rappeler l'exigence de l'adoration à cause de la création. Et cela me suffit pour me mettre moi-même en me posant la question, est-ce que je ne dois pas adorer ? Donc, les traditions religieuses. Deuxièmement, celui qui a la foi. Le Christ adore le Père. Le Christ dit, seul Dieu doit être adoré, les commandements de Dieu. Troisièmement, la philosophie. Alors ça c'est très rare, mais ça existe quand même. Quelqu'un qui fait de la philosophie sérieusement, une philosophie réaliste sur l'homme, montre qu'au-delà de l'homme, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un premier, et le Créateur. Et donc il est vis-à-vis de Dieu dans cette relation de totale dépendance. Et cette relation de totale dépendance est vécue dans l'amour, par l'adoration. L'adoration est donc un acte d'amour, mais très radical, vous voyez. C'est un acte d'amour à l'égard de celui qui m'a créé par pur amour. Dans sa contemplation. Dans tout acte d'adoration, je reconnais que je suis dans cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, dans mon être. Et que Dieu, qui a créé mon être, a créé un être spirituel, capable de choisir d'aimer librement. Ce n'est pas contradictoire. Je dis ça, c'est parce que les idéologies athées proviennent de ce manque de distinction. entre la vie et l'être. Ce n'est pas contradictoire de dire que je suis, par la création, dans un état de totale dépendance à l'égard de Dieu. Et que, en même temps, Dieu créant un être spirituel donne à cet être spirituel une capacité de choisir librement pour adorer. Alors voyez, si je confonds être et vie, je dis c'est contradictoire. D'un côté, vous dites que vous êtes dans un total de dépendance, et de l'autre, vous dites que vous adorez librement. Ça, c'est tout Feuerbach. Et c'est la source de toutes les idéologies athées depuis 150 ans. La confusion entre l'être et la vie. Mais si je comprends ça, je me dis, bon, pour répondre à Feuerbach, qui est la source de toutes ces idéologies athées que je respire, il faut nécessairement faire de la philosophie. La foi suffit, c'est évident, point de vue pratique, mais pour répondre à Feuerbach, à cette idéologie athée, il faut montrer qu'en effet, au niveau de l'être, au niveau de mon être, puisqu'en fond c'est ça, au niveau de mon être, je suis, j'existe au niveau de mon être. Je suis dans un état de dépendance radicale à l'égard d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Au niveau de ma vie spirituelle, intellectuelle, affective, donc je suis. J'ai une autonomie radicale qui me permet de poser un acte libre, acte d'adoration. Je reconnais ma totale liberté. Ma vie comme telle, c'est bien mon être. Mais il y a une distinction que je dois établir entre mon être et ma vie. La mort me laisse en vie spirituellement. Et la mort détruit mon état actuel de vie. Puisque je vis dans un corps. Et par la mort, je ne vivrai plus dans un corps. Oui, il faut arriver à distinguer être et vie. Si je n'arrive pas à distinguer être-vie, je ne pourrai pas répondre à Feuerbach qui dit, mais c'est très simple, je suis libre, j'ai l'expérience de ma liberté, alors que je n'ai aucune expérience immédiate de ma dépendance à l'égard de Dieu. Je l'affirme à cause des traditions religieuses, à cause de ma foi, ou à cause de ma métaphysique, si ma métaphysique était jusqu'au bout. J'ai aucune expérience directe. Je n'ai pas une expérience directe de Dieu et du Dieu créateur. Dans la foi, oui, mais pas dans mon intelligence pure. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, mon expérience de ma liberté s'impose. Je suis libre. Donc si je suis libre, je suis autonome. pour comprendre la dépendance radicale à l'égard du Créateur, il faut distinguer mon être, mon âme et source de ma vie et de mon être. Et distinguer ma vie. C'est très vrai, j'ai une vie qui a une certaine liberté. Et cette vie qui a une certaine liberté peut reconnaître dans ma vie spirituelle que je suis totalement dépendant de Dieu dans mon être. Vous voyez, et c'est ça qui est si grand dans l'adoration. C'est que par l'adoration, j'aime cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Parce que je sais que tout m'a été donné gratuitement. Et donc l'adoration me libère, parce qu'elle montre que je ne suis dépendant que de Dieu dans mon âme spirituelle. Ça me libère de ma dépendance à l'égard de mes parents. Mais je sais que je dois reconnaître que mes parents ont coopéré avec Dieu pour que j'existe. Et alors à ce moment-là, je reconnais tout ce que je dois à ma mère, tout ce que je dois à mon père. Ce sera la conséquence de l'adoration. Et l'adoration conduit à la contemplation. La contemplation, c'est justement d'essayer de comprendre ce qu'est Dieu, le Créateur, et comment Dieu Créateur m'a créé dans un acte de pur amour. Et si je découvre que Dieu m'a créé dans un acte de pur amour, je désire contempler cet amour, source de ma vie, source de mon être. Parce que ce Créateur, s'il a créé en moi mon âme spirituelle, il est mon Père. Le néoplatonisme a fait cette distinction très belle entre le Créateur de l'univers et le Père de mon esprit. Indépendamment de la révélation. Alors vous voyez, ceci au plan philosophique, je dois distinguer adoration et contemplation. Au plan chrétien, je distingue aussi adoration et contemplation. Je peux adorer quand je veux. C'est pour ça que je peux ponctuer ma vie par des actes d'adoration. Cet acte d'adoration, le bréviaire des pauvres, tout le monde peut faire cet acte d'adoration par jour. Et ces actes d'adoration, au plan surnaturel, se font avec Jésus, l'adoration en esprit, en vérité, et me conduisent alors à la contemplation. Quelques minutes pour revenir sur ce que je vous disais ce matin, parce qu'on a été très vite. Parce que c'est quand même tellement important de bien saisir cette tactique du démon. Parce que c'est impressionnant de voir cela. Et là, seul le croyant peut comprendre. Donc, on a Satan, Lucifer, qui implique le symbolisme du serpent, le symbolisme du symbolisme de l'adversaire. Le serpent est anti-verbe. Puisqu'il est menteur. Le dragon est anti-père. Et l'adversaire anti-esprit, ça. Faut pas oublier hein, que le démon, Lucifer, avant sa faute d'orgueil, vivait de la foi contemplative, de l'espérance et de la charité. Et il croyait dans le mystère de la très sainte Trinité. Dans son orgueil, il s'est donc séparé du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et maintenant, enfermé dans son orgueil, il ne sait plus qui est le Père, qui est le Verbe, qui est l'Esprit Saint. Lucifer, actuellement, est anti-contemplatif, anti-trinitaire, anti-Christ, anti-Marie, anti-Église, ne peut pas supporter. Et il est anti-création de notre univers, puisque nous sommes liés à cet univers. Et cette opposition est violente, elle veut la destruction. Évidemment, il ne peut pas détruire Dieu. Il ne peut pas détruire la très sainte Trinité. Il ne peut pas détruire la femme, Marie. Mais il essaie de détruire sa descendance. Alors, vous avez ce point de vue-là. Et qu'est-ce que vous avez ensuite? J'allais dire que ça, c'est le démon anti-contemplatif. La contemplation de Dieu anti. Vous avez Satan. C'est-à-dire le dragon, parce que c'est le dragon. Mais c'est aussi le serpent qui va, de fait, faire alliance avec la bête de la mer, avec la bête de la terre. Et on voit que la bête de la terre est toute relative à la bête de la mer. La bête de la mer est cette intelligence. Les sept têtes, l'intelligence reste intacte. Mais l'intelligence, à la place d'être ordonnée à l'amour, est tout entière au service de la puissance. Voyez que ces alliances, ces fausses alliances, sont des antithèses, des alliances de Dieu avec l'homme. Quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? C'est les alliances de Dieu avec l'homme. Le mystère de l'Église, c'est la femme, chose de semblable. De voir que le démon, Satan, qui imite Dieu, va faire une alliance avec la bête de la mer et la bête de la terre pour nous mettre en parallélisme ces deux alliances en voyant leur opposition. Mais il faut imiter Dieu. La grande alliance de Dieu, c'est avec le Christ et avec Marie. Et par Marie l'Église. Alors, est-ce que la bête de la mer, qui est l'intelligence avec l'intelligence, vue du point de vue de la vie, est-ce que ce n'est pas l'antithèse, la caricature de l'alliance de l'incarnation et de la rédemption? Et l'alliance de la bête de la terre, la caricature de l'alliance de Dieu avec Marie. Personnellement, je le crois. C'est pas dit. Mais étant donné que le démon n'invente rien, c'est un faux artiste, il copie à sa manière, vu d'extérieur. Comment va-t-il copier le mystère d'incarnation et de la rédemption? Comment va-t-il copier le mystère de l'Église? Il a son Église.